retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire Des coups au cœur, proposée par l'association Littéra 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, et bien nous voici pour un nouveau rendez-vous avec des coups au cœur. Je vais vous parler aujourd'hui d'un auteur africain, enfin mi-africain, mi-américain. Il est d'origine africaine et maintenant il a beaucoup vécu en France et il vit moitié France, moitié aux États-Unis. Nous avons reçu cet auteur dans le cadre d'un partenariat avec le foyer culturel viennois. Et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler, parce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai lu deux de ses livres, il en a écrit plus que ça, et j'ai beaucoup aimé, donc je voudrais vous les présenter. Il est né en 1965 à Djibouti, donc il est franco-djiboutien, d'expression française. Il a fait des études littéraires en France. Il a été enseignant en France et actuellement il est professeur d'université à Washington. Dans ses premiers livres, cet auteur souligne les déchirements et les errances de l'Afrique noire avec plusieurs de ses livres, en particulier donc aux États-Unis d'Afrique, un roman publié en 2006, Passage des larmes, un roman publié en 2009, et son dernier, La divine chanson, publié en 2015. Moi, je vais retenir aux États-Unis d'Afrique et la divine chanson. Alors, aux États-Unis d'Afrique, je vous lis le début. Ça situe toujours bien les personnages. Il est là, fourbu, silencieux. La lueur mouvante d'une bougie éclaire chichement sa chambre dans un foyer pour travailleurs immigrés. À l'air du jet et du net, ce caucasien d'ethnie suisse parle un patois allemand et prétend qu'il a fui la violence et la famine. Il garde pourtant intacte une aura qui fascine nos infirmières et nos humanitaires. Appelons-le Yakuba, primo pour préserver son anonymat, deuxio parce qu'il a un patronyme à coucher dehors. Il est né dans une insalubre favela des environs de Zurich, où la mortalité infantile et le taux de prévalence du sida, un mal apparu dans les milieux interlopes de la prostitution et de la drogue du port d'Athènes et qui touche désormais nos contrées, au dire des grands prêtres de la science mondiale réunis à Mascate, dans le preux royaume d'Oman, sont parmi les plus élevés selon une étude de l'OMS, installée, comme chacun le sait, dans notre bonne et paisible ville de Banjul, laquelle accueille également la crème de la diplomatie internationale censé décider du sort des millions de réfugiés caucasiens d'ethnies diverses, autrichiens, canadiens, américains, norvégiens, belges, bulgares, britanniques, islandais, portugais, hongrois, suédois, sans parler des boat people squelettiques de la Méditerranée septentrionale qui n'en peuvent plus de zigzaguer entre les tirs de mortier et les missiles enténébrant les infortunés terres d'Euramérique. D'Euramérique, une contraction de Europe-Amérique. D'aucuns détalent, errent et s'épuisent, ou se rendent tout de go en attendant que le néant les fauche. Parmi eux, des prostituées de tous sexes, monégasques et vaticanesques, mais pas seulement, échouent sur les plages de Djerba et dans la baie bleue cobalt d'Alger. Tous ces pauvres diables sont en quête du pain, du lait, du riz ou de la farine distribuée par les organisations caritatives afghanes, haïtiennes, laotiennes et sahéliennes. Depuis que notre monde est monde, les petits écoliers français, espagnols, bataves ou luxembourgeois, malmenés par la lèpre, le glaucome ou la poliomyélite, ne survivent qu'avec les surplus alimentaires des fermiers vietnamiens, nord-coréens et éthiopiens. Ces peuplades aux mœurs guerrières, aux coutumes barbares, aux comportements fourbes et incontrôlables, ne cessent de rasier les terres calcinées d'Auvergne, de Toscane ou de Flandre, quand elles ne versent pas le sang de leurs ennemis ataviques, teutons, gascons et autres ibères arriérés, pour un oui ou pour un non, pour un rire ou pour un rien. Tous attendent une paix qui n'est pas de ce jour. Alors vous l'avez compris, ce livre situe notre monde, je dirais, à l'envers. L'Afrique est présentée comme un continent glorieux, prospère, avec ses prestigieuses universités, sa prospérité économique et culturelle, mais ce n'est pas une Afrique accueillante et ouverte. En fait, elle est le miroir de ce qu'est l'Occident actuel. Et les migrants, les parias, les exilés, les rejetés, qui sont en Occident, ou aux États-Unis, ou en Amérique, essaient de regagner l'Afrique là où est la prospérité. Mais l'Afrique prospère ne fait pas mieux que les Euro-Américains, Europe-Amérique, par peur du péril blanc. Ils refusent d'accueillir les migrants. À un moment, Abdourahmane Ouaberi déclare « Rien de plus jouissif qu'un renversement de la situation géopolitique. Rien de plus jouissif qu'un grand rire nègre ou rabelaisien pour dire le monde tel qu'il boite. » En fait, Ouaberi fait un récit à la fois plein d'humour, mais aussi de sérieux. Il s'amuse beaucoup, mais bien sûr, l'Afrique, qui est représentée comme l'Occident actuel, reçoit, je dirais, toutes ces critiques. Et puis à côté de la description de cette Afrique, on a le récit de la vie de Maya, une jeune fille blanche exilée sur cette terre, où elle n'est pas née, elle est blanche, elle a été adoptée par une famille noire. Et c'est là qu'elle a grandi. Mais elle part à la recherche de sa mère biologique. Et l'auteur lui fait dire « Tu es, tu restes une exilée à la racine qui plus est ». Voilà donc un livre vraiment intéressant où on a le monde tel qu'il est devenu. Le deuxième livre, « La divine chanson », c'est son dernier livre publié en 2015. Le dernier livre donc de Abdourahmane Ali Ouaberi. Donc son dernier livre, « La divine chanson ». Je vous lis le début là aussi. Reprenons le fil des événements. Je m'appelle Paris. Je ne suis pas juste un chat roux. Je suis le vieux chat du prodige Samuel Camo Williams. C'est son histoire que je vais vous conter, si toutefois elle n'est pas encore parvenue à vos chastes oreilles. Comme mon maître, je suis fils de la grande route. Nous avons cheminé ensemble de longues années humaines, Samy et moi, laissant nos empreintes dans la poussière l'été, dans la neige argentée l'hiver et dans l'or des feuilles jaunies l'automne. Notre vie, la plus extraordinaire des traversées en ce bas monde. Des témoins ont dit que nous sommes semblables comme les deux faces de la lune. La comparaison ne s'arrête pas là. Tout comme lui, j'ai le poil hirsute, l'imagination créatrice et la peau sur les os. Donc vous vous rendez compte que c'est le narrateur, c'est un chat qui s'appelle Paris. C'est un chat soufi, on le dit un petit peu plus loin, qui a eu 7 vies et il est en train de vivre sa 7e vie. Son maître, ou plutôt son ami, c'est Samy Camo Williams, un musicien chanteur de blues. En fait, ce Samy reprend, c'est le nouveau nom, je dirais, de Gil Scott Heron, un chanteur américain, compositeur afro-américain, qui a réellement existé, peut-être que le connaissez-vous, qui est né en 1949, que va nous raconter donc ce chat Paris, sous le nom de Samy. Samy, c'est Gil Scott Heron, le chanteur. Il vient d'entrer dans un hôpital new-yorkais en ce jeudi 19 mai 2011. Il va d'ailleurs y mourir. En fait, c'est quand il est mort, justement, que Abdourahmane Ouaberi a voulu rendre hommage à ce chanteur et il a écrit donc La Divine Chanson, qui est donc une sorte de biographie de Scott Heron. Et il va faire la présentation de sa vie. Ce n'est pas une présentation chronologique. Les événements de sa vie sont éparpillés dans le livre. On passe de son enfance à son engagement pour la cause des Noirs, à la musique, qui est le centre, je dirais, du livre. Il nous parle de son père, de sa grand-mère qu'il adorait, Lily, de la drogue, de la mort, puisqu'il va, à la fin du livre, mourir. La mort, il a une image sur la mort. Il dit « C'est un vautour à deux têtes qui rôde. » Alors, je vais vous lire un passage où on montre justement l'engagement de Samy pour la cause, surtout la cause noire. Les 40 dernières années de Samy ont été épiques et harassantes, un geyser de sève. Et il a beaucoup donné, il a passé son temps à rameuter les frères et les sœurs, à lier leurs énergies à la manière de ces arbres qui mêlent leurs ramures dans le ciel, à écrire, à composer en groupe ou en solo, à monter des troupes avec Danny Gibbs et d'autres artistes de grand calibre, à chanter, donner des concerts gratuits dans les ghettos de Washington DC, Los Angeles ou Dallas, à travailler en réseau dans le but d'accoucher la révolution, à se battre contre l'ennemi du jour, qu'il se nomme Ségrégation, Dick Nixon ou Ronald Reagan. Et surtout, il ne fallait jamais désespérer car la vieille taupe de l'histoire finira par montrer le bout de son museau. De toutes ses fibres, il voulait lever son peuple, laisser une œuvre musicale tout en cassant les jointures de la machine diabolique du capitalisme. Il est parvenu avec ses mots à se faire guérisseur, prophète, meneur, chasseur de djinns. Et ce n'est pas tout. Ses déboires de bohémien et son caractère irascible lui valent de sourdes inimitiés et d'innombrables ennemis. Mais Samy n'écoute que sa conscience plus tourmentée que sa tête. Quand j'ouvre l'œil de la raison, on me traite de fou allié, confesse-t-il dans l'une de ses plus célèbres chansons. Les gens du métier l'ont excommunié. Qu'importe, Samy continue de sacrifier sa vie pour le bien-être d'autrui. C'est un très beau livre justement sur la musique. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le centre du livre, puisque Jill Scott Heron, un grand musicien reconnu à son époque, a touché beaucoup de genres, le jazz, le punk, hip-hop, et surtout bien sûr le blues qui est à la racine, je dirais, de tous les genres. Parce que, pense-t-il, la musique a un rôle salvateur dans notre monde qui ne va pas bien. Je vais vous lire un passage justement qui montre le début du blues, comment est né le blues aux États-Unis. Quand il n'y a plus grand-chose à attendre de la destinée, quelques-uns vont chercher au fond de leur tripe le droit à l'indignation, la force de tourner en ridicule la chiennerie de la vie. C'est sur ce terreau qu'est né le blues dans les champs de plantation du Sud, avant de monter dans les grandes villes du Nord. C'est très tôt dans l'histoire américaine, vers 1620, que les esclaves africains débarquent en Virginie. Ils sont parmi les premiers immigrants, à ceci près que les Africains n'ont pas choisi de s'embarquer sur les bateaux négriers. Dans les années 1700, on ne dénombre que 30 000 Noirs dans les colonies britanniques du Nouveau Monde. La machine à dépeupler les côtes africaines tourne à plein régime avec la complicité des chefferies locales. En 1860, ils sont 3 800 000 esclaves dans les États du Sud. Les chiffres sont dopés par l'extension des cultures du tabac, du riz et du coton dans la Virginie, le Mississippi, la Géorgie et jusqu'aux confins du Texas. Dans le même temps, des volontaires noirs s'enrôlent dans l'armée de l'Union dirigée par le général Grant pour aller combattre le Sud esclavagiste. Rien ne sera plus comme avant. La guerre de sécession est passée par là. Elle laisse sur le carreau 1 000 000 de morts, ruinant définitivement l'économie du Sud. Le 18 décembre 1865, le 13e amendement de la Constitution proclame la fin de l'esclavage. Une victoire posthume pour le président Abraham Lincoln, assassiné en avril de la même année. James Meredith entre dans l'histoire en 1962 comme le premier étudiant noir à être admis à l'université du Mississippi. Hawaï, qui a vu grandir le jeune Barack Obama, né un an plus tôt, montre un profil plus tolérant et plus cosmopolite que le vieux Sud esclavagiste. Voilà donc un très beau livre qui, je dirais, qui parle de, à la fois bien sûr des États-Unis, des problèmes, de la musique surtout, et de, je dirais, de l'art en général. Hein. Parce que dans ce livre, il y a comme une investigation sur l'art. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Comment on devient artiste? Comment un artiste prend la parole pour les autres, pour parler du monde, pour dire comment le monde va ou comment il ne va pas. Donc deux livres que je vous recommande vivement. L'auteur, Abdourahmane Ali Waberi. Le premier livre, donc, il s'agit de « Aux États-Unis d'Afrique ». Le deuxième, « La divine chanson ». Et tous les deux sont publiés aux éditions Zulma. Merci de votre attention. À la prochaine fois. So much more.